après la BD, on va partir au cinéma avec un film documentaire qui sort tout juste en salle. Ça s'appelle Les Esprits Libres, un autre soin est possible. Ce film a été tourné dans une résidence d'artistes, un manoir à Loctudy en Bretagne, avec une dizaine de résidents de la Villa d'Épidaure, qui est un EHPAD qui a une antenne à Garches et une autre à la Celle-Saint-Cloud, 10 soignants et leurs familles. Et pour nous en parler, je vais demander à Steven Plantevin et Kaël Lauverte de nous rejoindre. Et voilà, ils arrivent, ils ont soigné leur effet, on sent qu'on est comme au cinéma. Non, ce n'est pas Cannes, il n'y a pas de tapis rouge, vous êtes aux entretiens Alzheimer. Et vous venez nous rejoindre. Vous êtes respectivement Steven, enseignant en activité physique adaptée, et Kaël, psychologue spécialisé en gérontologie. Bah écoutez, installez-vous à côté de moi, voilà. Steven et Kaël avec nous, prenez un micro et racontez-nous. Bonjour. cette aventure absolument incroyable, puisque vous êtes partis 2 semaines. Alors, à la Villa Épidaure, on a l'habitude de monter des défis, hein, des pièces de théâtre, des voyages incroyables. Je me rappelle que vous êtes venu nous raconter un tas de choses, mais là, 2 semaines complètes, fallait oser.
Oui, donc c'est vrai, on a une sacrée histoire maintenant avec les entretiens Alzheimer. On est venu présenter avant tout, il y a 7 ans, je crois, maintenant, la première représentation théâtrale qu'on a fait avec...
Avec des résidents Alzheimer.
Absolument. Et la suite logique, en fait, de ce projet, ça a été aussi de réinventer un petit peu l'accompagnement de nos aînés et de voir ce que pouvait donner une expérience immersive en habitant avec les résidents pendant 2 semaines. Voilà.
Donc votre petite équipe, c'était 10 résidents, 10 soignants, je ne sais pas comment on dit, accompagnants, et vos familles.
Oui, alors il y avait effectivement ma femme et ma fille, et la femme de Steven et son fils également.
Objectif ?
Objectif, réinventer l'accompagnement de nos aînés atteints de la maladie d'Alzheimer, notamment, et puis faire du théâtre, s'amuser, vivre, et remettre aussi un peu l'art au centre de tout ça et de l'accompagnement. Il y avait non seulement une dramathérapeute, Emmanuelle Barbonne, qui nous a accompagnés pendant tout le projet, mais aussi des musiciens, des musiciennes, chanteurs et chanteuses, une poétesse également qui nous a accompagnés.
Voilà. Vous avez des images ?
On va vous montrer le premier extrait, je crois, l'extrait numéro 2, si vous voulez.
Donc là, vous venez de voir un extrait du coup du film. C'était une scène de théâtre, puisque du coup, on vous en a parlé. Le projet est né d'une jeunesse de théâtre et donc avec Bertrand aussi, qu'on n'a pas évoqué, du coup, qui était
Bertrand le réalisateur.
Bertrand Hagenmüller, le réalisateur de 2 films avant celui-ci, donc un triptyque, comme il dit. Du coup, on a assisté là à une scène où on avait une résidente, donc atteinte d'Alzheimer, qui jouait un rôle de médecin avec un de nos accompagnants, des soignants. Et comment dire, et dans cette scène, et dans ce rôle de théâtre, on va retrouver du coup la possibilité, en tout cas, on va donner la possibilité aux résidents d'être de nouveau créatifs, d'être de nouveau source de propositions, d'être meneur de quelque chose. Et en tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a retrouvé finalement ensuite dans le quotidien de ce projet, qui est certainement une des missions de demain dans la création des EHPAD de demain, c'est d'essayer d'initier ou de mettre à disposition en tout cas des possibilités de spontanéité chez ces personnes-là, parce que là, à travers cet extrait et à travers tous ceux que nous on a eu la chance de vivre, on est témoin du fait que malgré la maladie, la créativité, la spontanéité, la remise en lumière de capacités préservées est possible. Et donc ça, c'est à nous de le créer demain à travers notre accompagnement, mais aussi à travers un sujet que je vais essayer peut-être d'étayer un petit peu après, ce qui est l'environnement dans lequel ils sont accueillis.
Vous êtes en train de démontrer qu'en fait, on peut faire un tas de choses avec les résidents et que ça les aide à bien vivre, à mieux vivre.
Absolument. Au fur et à mesure qu'on accompagne les personnes atteintes de maladies neuroévolutives, on se rend compte qu'il faut qu'on déconstruise, qu'on enlève ces stéréotypes, qu'on fasse tomber ces stéréotypes négatifs liés au vieillissement et à la maladie. C'est pas parce qu'on a une maladie d'Alzheimer, pas parce qu'on a des troubles de la mémoire, qu'on se rappelle de rien. C'est pas parce qu'on a une maladie d'Alzheimer qu'on n'est plus capable de faire à manger, qu'on n'est plus capable de s'habiller, qu'on n'est plus capable... Bon. Nous, on est là pour préserver les capacités présentes et permettre aussi à ces personnes de s'émanciper en tant que personne et pas en tant que malade.
Petit deuxième extrait.
Oui, l'extrait numéro 1, s'il vous plaît.
J'ai beaucoup différemment. Normalement, dans un contexte, dans une vie, on vit en famille, le rythme est différent, j'ai pas envie de s'adapter. Et je me sens bien. Et eux, je me sens qu'ils sont bien aussi. On est en train de créer un lien. Je prends plus. Moi, je prends plaisir que eux, je sens qu'ils s'en prennent avec nous. Même dans le regard, même dans le soin, même dans tout.
Si les gens qui sont ici vont mieux qu'à l'hôpital, c'est parce qu'il n'y a plus cette relation soignant-soignant. On est de personne à personne.
Et on est à lien si
déjà identifié qu'il y a du lien qui serait davantage aussi. Parce qu'il n'y a plus cette distance. Moi, je pense qu'on a beaucoup. On se parle de personne à personne, on se parle en crème, on se tutoie, même si ça peut passer pour un manque de respect. Avec ces personnes qui sont malades, la proximité, c'est de l'affection. Et de l'affection, c'est par là qu'on gagne. Et puis après, je crois, il y a des children, il y a des enfants. Dès que tu as un enfant qui est là, les suites, oui, ça va être dit, ça va être du vivant.
Et quand tu rentres dans une maison chaleureuse, t'as ta vie, t'as des gens qui rigolent.
Alors généralement, quand on a un proche Alzheimer, on hésite à le changer de lieu parce qu'on a peur que ça le perturbe. Et vous avez démontré l'inverse.
Alors oui, et en même temps, ça perturbe tout le monde de changer de lieu. Nous, on n'est pas là pour couver une personne malade. On est là pour continuer la vie. Et continuer la vie, c'est aussi prendre des risques. Et c'est un peu ce qu'on a fait là, et c'est ce qu'on continue à faire au quotidien. Et ce que vous pouvez voir dans cet extrait, c'est un des nombreux points du soir qu'on faisait avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire, qui met en avant pas mal de choses. Et j'ai envie de souligner évidemment le lien intergénérationnel qui, je pense, commence à faire de plus en plus de sens maintenant dans nos établissements et dans
la présence des enfants, etc.
La présence des enfants, évidemment, et notamment la présence de ma fille et du fils de Steven, qui était presque plus stimulant, plus bénéfique, plus apaisant qu'un anxiolytique ou un antidépresseur, si vous voulez. Bon, alors, ça mis à part, il y a aussi quelque chose qu'on a tendance aussi un peu à négliger, c'est le cadre non seulement pour les résidents, mais aussi pour les soignants. Et nous, en fait, on a retrouvé un peu le cœur de notre métier, la quintessence de notre métier. On a retrouvé du sens dans ce qu'on faisait. Parce que souvent, on est un peu pris par l'espèce de l'administratif qui nous prend au quotidien, la structure, tous les impératifs. Toutes les procédures, etc., qui vont nous empêcher un peu de faire notre travail. Et, euh, et, et par là, en fait, on s'est rendu compte qu'en travaillant presque 10 à 12 heures par jour, en fait, pour rien au monde, on voulait arrêter, en fait, parce que on trouvait vraiment le sens de notre métier. Voilà.
Merci. L'extrait aussi, on m'entend parler dans l'extrait de l'approche de soins, que c'est pas là qu'on gagne. Alors c'est un peu sorti de toute une grande conversation, mais oui, le lien qu'on va créer, et c'est ce qu'on a eu la chance de faire avec beaucoup de temps et beaucoup de profondeur pendant ce séjour. Et grâce à ça, j'en suis toujours persuadé, ça nous permet d'avoir accès à autre chose avec ces personnes-là, et du coup de pouvoir mieux leur proposer d'exploiter tout ce qu'ils sont encore capables d'exploiter. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, les avancées scientifiques aujourd'hui sur ce qu'on appelle les approches non médicamenteuses mettent en avant que le rôle de l'environnement est extrêmement important dans l'accompagnement de ces pathologies. Puisque l'environnement, s'il n'est pas reconnu, si on ne sait pas quoi faire dans un lieu, parce qu'on ne le reconnaît pas, sans être malade, on pourrait tous bien avoir des comportements un petit peu bizarres. Voilà. Si je me retrouve dans un endroit que je ne sais pas quoi y faire à cet endroit-là, je vais me poser, je vais peut-être réfléchir un petit peu, puis au bout d'un moment, je vais essayer des choses, et peut-être qu'elles ne seront pas adaptées, parce que justement, ce milieu, je ne le connais pas. Et c'est un petit peu le constat qu'on a pu faire entre cette maison, là-bas, qui était un manoir, qui comptait des pièces qui étaient tout à fait des pièces reconnaissables, parce qu'elles avaient chacune une identité et quelque chose de précis à y faire. Une cuisine, un salon, une salle à manger, une salle de lecture. Des choses qu'on a tous eu l'habitude de croiser dans nos vies, et c'est le cas pour ces personnes atteintes de maladies neuroévolutives. Et malgré cette maladie, on va faire appel à des connaissances qui sont encore très préservées, puisque c'est différents types de mémoire qui sont atteints dans un certain ordre, mais du coup cette mémoire auquel on fait appel dans la reconnaissance de notre environnement, c'est l'une des dernières touchées. Et donc si on sait, s'ils savent encore comment interagir avec l'environnement, ils vont pouvoir faire ce qu'on disait tout à l'heure avec la scène du théâtre, remettre en place des choses spontanées de connaissances encore acquises. Voilà.
Alors là, on est dans une expérience quand même vraiment particulière, avec des moyens vraiment particuliers. Et j'imagine que je ne suis pas la seule à me dire, comment est-ce que je peux utiliser votre expérience? Quel bénéfice je peux en tirer si j'accompagne un proche à domicile?
En réalité, ce qu'on a mis en avant ici, je vais vous parler d'une anecdote, très courte, je vous promets. Avant le lancement du projet des Esprits Libres, avant de partir, je parle à une résidente de notre projet. Je lui dis, c'est incroyable, on est en train de créer un projet qui sera certainement à l'origine des EHPAD de demain. Vous allez voir, on va tous vivre dans la même maison, il y aura des enfants, il y aura de l'art. Ça va être incroyable, complètement innovant. Et cette résidente, elle m'a dit quelque chose d'assez intéressant. Elle m'a dit, mais vous n'avez rien inventé là, en fait. Les pattes de demain, c'est les pattes d'hier, c'est les pattes à la maison. Et donc, en réalité, pas besoin d'être d'être expert dans l'accompagnement des maladies neuroévolutives pour comprendre qu'en fait, je pense qu'on met beaucoup de distance entre le soignant et le soigné. Et de plus en plus, on essaye de réfléchir à ce qu'on pourrait faire de mieux, à ce qu'on pourrait expertiser en fait dans notre approche. Mais en réalité, il faut se concentrer sur l'essentiel. Ça veut dire être dans l'humain, dans l'amour, dans le toucher. Et aussi accepter de se faire accompagner, en parler, pas s'isoler. En tout cas, ça c'est plutôt mon humble avis. Peut-être que Steven...
Je peux que réagir aussi là-dessus. Je partage complètement... C'est peut-être un peu naïf et un peu bête à dire, mais c'est vrai que finalement, l'expertise, elle nous écarte des choses simples. Et ce qu'on a retrouvé là-bas, c'est que finalement, les choses simples, elles fonctionnent. Voilà. Et encore une fois, par rapport à cette notion de l'environnement, mais tout simplement mettre des choses simples en avant, des choses qui sont compréhensibles, c'est ça qui est montré aujourd'hui scientifiquement sur les approches non médicamenteuses qui fonctionnent. Et je reprends aussi un exemple d'une dame qui a eu l'occasion d'être dans les deux premiers films de Bertrand, qui s'appelait Nanny de Villepin, et qui prônait le fait qu'il fallait qu'on soit ensemble, qu'on partage des moments ensemble, puisqu'elle disait que la vie est riche quand on n'est pas chacun sur notre ligne de vie étroite. Voilà, si on est tout seul, si on fait très vite juste tout ce qu'on sait très bien faire, mais que du coup on ne le partage pas avec les autres, bah elle est moins intéressante. Et elle voulait dire par là, enfin dans l'ensemble de son discours, qu'on a tous à y gagner, en fait, voilà, que ce soit les personnes qui soient dans l'EHPAD, mais comme les personnes qui n'y sont pas, on a tout à y gagner à continuer de se rencontrer.
Une fois sorti de cette bulle, de cette résidence, vous êtes rentré donc à l'EHPAD, qui est quand même déjà un EHPAD particulier, avec une grande envie d'innover, avec une grande envie d'être à l'équipe, à l'écoute, et avec un personnel suffisant, donc ce qui n'est pas malheureusement le cas de tous les EHPAD. Qu'est-ce qui en est resté aux résidents et à l'équipe ?
L'esprit libre, c'est vrai. Et ce qui est étonnant, c'est que face à la maladie d'Alzheimer, eh bien, quelques-unes des résidentes en reparlent encore aujourd'hui de ce séjour. Alors, avec l'esprit parfois un peu embrouillé, nébuleux, mais se souviennent de ces moments-là. C'était, je ne vous le cache pas, assez difficile de rentrer après cette lune de miel. Mais en même temps, on en ressort grandi. Plein d'espoir et avec plein de projets pour l'avenir aussi. Et en fait, on en ressort aussi avec la conviction qu'il faut continuer dans ce sens. Et c'est aussi grâce au soutien de notre directrice, Mme Sidoum, qui permet aussi tout ça.
Donc, qui permet, qui soutient, qui lance les projets, lance les etc. Projets, ouais. Ça, c'est vraiment important. Et c'est important aussi que peut-être de nombreux autres EHPAD regardent ce que vous faites, parce que ça peut leur donner des idées de faire à leur tour d'autres projets.
Mais espérons-le. Et puis, je pense que la meilleure solution serait de faire tourner le plus possible sur les réseaux, sur vos réseaux, le film des Esprits Libres qui est encore en salle et que nous vous invitons à venir voir avec nous tout à l'heure.
J'ai aussi entendu des freins de la part des proches qui ont peur et qui ont parfois tendance à couver leurs proches malades ou qui n'osent pas leur proposer ou se lancer ou accepter des aventures.
Ouais. Alors, je réponds et je réponds un peu la parole de Bertrand Hagenmüller, le réalisateur, qui a répété ça de nombreuses projections débat. En lien avec la réglementation, les réglementations qui norment donc la construction des établissements, mais qui vient certainement aussi d'une peur de responsabilité de chacun. Voilà, il faut qu'on puisse se protéger, parce que si jamais il arrive quelque chose, sur qui la responsabilité va tomber. Voilà, mais du coup, dans ce discours de, on a envie qu'un EHPAD joyeux, un EHPAD de vie puisse naître et se déployer demain. Il faut que, du coup, on ait une société qui soit co-responsable, que chacun puisse se dire, je prends le risque qu'il y ait un peu plus de risque que, je ne sais pas, qu'une chute arrive ou que quelque chose n'ait pas été remarqué à l'instant présent, je ne sais pas, enfin, il y a qui est forcément un peu moins de contrôle, mais pour laisser place à un peu plus de vie.
Merci beaucoup à tous les deux.